Et voici le journal de Margot Delpierre en vous souhaitant un bon réveil et en vous disant bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un nouveau confinement entre en vigueur la nuit prochaine. À partir de demain, de nombreux établissements ferment. Qui travaille, qui ne travaille pas, qui peut télétravailler? Nous ferons le point avant d'entendre des réactions d'enseignants. Les protocoles sanitaires doivent être renforcés, mais on ne connaît pas encore le détail.
Emmanuel Macron a-t-il assez anticipé ce confinement? Analyse à suivre de Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture.
Nous pousserons les portes d'une unité Covid pleine de patients. Reportage au centre hospitalier Gustave Dron à Tourcoing.
Et puis en Allemagne aussi, le pouvoir a annoncé de nouvelles restrictions. Les restaurants et les lieux culturels vont fermer, nous expliquera notre correspondant à Berlin.
Et après ce journal, la question du jour, Guillaume.
Eh bien, Donald Trump peut-il encore gagner? Je poserai la question à Anne Desine, elle est juriste et spécialiste des États-Unis.
J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer. Mais parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur trois points principaux. Les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les EHPAD et les maisons de retraite pourront être visitées.
Emmanuel Macron a donc annoncé hier soir un nouveau confinement à partir de demain et jusqu'au 1er décembre pour mettre un coup de frein brutal aux contaminations, a-t-il expliqué. La deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première, selon le président de la République. C'est pourquoi, partout où c'est possible, le télétravail sera donc à nouveau généralisé, selon le chef de l'État, Catherine Pétillon.
Le message, c'est le travail continue. L'économie ne doit ni s'arrêter ni s'effondrer, a insisté hier soir Emmanuel Macron. De ce point de vue, les mesures sont strictes, mais moins restrictives qu'au printemps. Objectif, faire en sorte que l'activité continue de manière beaucoup plus soutenue. Rappelons qu'au mois d'avril, en plein confinement, elle avait chuté de 30%. Cette fois encore, partout où c'est possible, le télétravail sera généralisé, a détaillé Emmanuel Macron. Fin septembre, 12% des salariés étaient en télétravail, contre 25% au mois d'avril. La grande différence avec le confinement concerne en fait les autres métiers, ceux où le télétravail n'est pas possible. Cette fois, les usines, les exploitations agricoles, les bâtiments et travaux publics continueront de fonctionner. Les guichets des services publics resteront ouverts. En revanche, tous les autres établissements recevant du public seront fermés. Rideau donc pour le secteur de la culture, les salles de spectacle ou de cinéma devront fermer leurs portes. Le petit commerce aussi est particulièrement concerné. Tous les établissements définis au printemps comme non essentiels seront fermés, c'est-à-dire la majorité des magasins, hormis par exemple l'alimentation. Cette liste fera l'objet d'une réévaluation tous les 15 jours selon la situation. L'exécutif avait déjà assuré de la prolongation du dispositif de chômage partiel jusqu'à la fin de l'année. Emmanuel Macron a annoncé hier des mesures de trésorerie pour les loyers des prochaines semaines, ainsi qu'un plan spécial pour les indépendants, les commerçants et les très petites et moyennes entreprises. Des adaptations sont prévues pour les départements et territoires d'outre-mer. Elles devraient être détaillées ce soir par Jean Castex, tout comme le détail de l'ensemble de ces mesures.
En effet, ce soir à 18h30, le Premier ministre donnera une conférence de presse. Le patron du MEDEF a déjà réagi pour Geoffroy Roux de Bézieux, ce reconfinement va provoquer des dégâts économiques et humains considérables. Selon lui, il va coûter à la France entre 50 et 75 milliards d'euros de produits intérieurs bruts. Dans ce reconfinement assoupli, un autre point d'interrogation subsiste. Quel protocole sanitaire renforcé dans les écoles, collèges et lycées? Cela concerne 12 300 000 jeunes, car si les universités donneront cours à distance, les écoles, collèges, lycées, eux, continueront d'accueillir les élèves. Les enseignants attendent des précisions, une annonce qui n'est pas très bien vécue, Stéphane Geneste.
Du côté des professeurs, les annonces d'Emmanuel Macron ne sont pas claires. C'est ce que regrette Sophie Vunetité. Elle est professeure de sciences économiques et sociales et est également secrétaire générale adjointe du SNES-FSU.
Il y a aussi de la colère. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation sanitaire très grave. Et encore une fois, il y a bien peu de réponses qui sont apportées. On s'attendait aussi à des mesures concrètes sur comment garantir la sécurité des jeunes et des adultes. Le compte n'y est pas. Il va falloir très rapidement que le ministère de l'Éducation nationale donne des précisions.
Même si les professeurs n'ont pas toutes les informations pour se préparer au mieux à cette rentrée, ils sont soulagés que les écoles, collèges et lycées restent ouverts. Catherine Navbekti est secrétaire générale du SGEN-CFDT.
On a vu pendant le confinement, en mars, avril et début mai dernier, voire plus tard dans le mois de mai pour certaines régions et certaines tranches d'âge, qu'un grand nombre d'enfants, d'élèves, ont eu des difficultés qui sont normales, hein, qu'on ne peut pas leur reprocher, à maintenir le rapport aux apprentissages scolaires et que sur une très longue durée, trop répété au cours de la scolarité, ça peut être problématique.
Les professeurs attendent donc des réponses à leurs questions, questions qu'ils pourront poser à leur ministre de tutelle, Jean-Michel Blanquer, tout à l'heure dans l'après-midi.
Et à noter, les crèches restent aussi ouvertes. En bref, il sera également possible de rendre visite à ses proches en maison de retraite et en EHPAD, contrairement au premier confinement du printemps, pour éviter cette fois l'isolement des personnes âgées. Les cimetières restent ouverts en cette période de Toussaint. Enfin, notons que les compétitions sportives professionnelles peuvent aussi continuer. Emmanuel Macron a pris soin de justifier sa décision hier soir, d'expliquer pourquoi il n'y avait pas d'autre solution, parce que les hôpitaux, quoi qu'on fasse, seront saturés d'ici la mi-novembre. On peut tout de même s'interroger sur l'impression que laisse le président d'improviser en prenant soudainement cette décision de ne pas avoir anticipé. Et on peut se poser cette question, Stéphane Robert, n'intervient-elle pas trop tardivement ?
Il est toujours un peu facile de critiquer après coup les décisions qui ont été prises ou qui n'ont pas été prises. Mais c'est sans doute ce reproche essentiellement qui sera fait au président de la République d'avoir réagi trop tardivement. Le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, a d'ailleurs commencé à sonner la charge dès hier soir sur France Info parlant de défaut d'anticipation. Et il faut le dire, un peu à raison, puisque dès le mois de juin, le Conseil scientifique mettait en garde contre une très probable deuxième vague en octobre ou en novembre, disait-il alors. Et son président, le professeur Jean-François Delfraissy, avait une nouvelle fois sonné l'alarme le 9 septembre dernier. Il va falloir prendre des décisions difficiles, avait-il prévenu, et nous avons 8 à 10 jours pour le faire. Seulement, à ce moment-là, toutes les enquêtes montraient que les Français n'étaient pas prêts, que leur principale crainte n'était pas d'ordre sanitaire mais économique. Ils avaient peur de perdre leur boulot. Il y avait donc un risque que des mesures de restriction ne soient pas comprises et surtout pas acceptées. C'est donc peut-être, sans doute, ce qui a conduit le président de la République à retarder cette décision jusqu'à son inéluctabilité, prenant le risque qu'on lui fasse ce reproche de ne pas avoir anticipé. Aujourd'hui, la peur du virus est revenue au premier plan.
Stéphane Robert en direct, chef du service politique de France Culture. Nous le disions, la situation dans les hôpitaux devient critique. Les capacités de réanimation seront portées à 10 000 lits, soit le double du nombre initial. Le taux d'occupation des lits de réanimation par des patients Covid atteint 60%. Plus largement, les hôpitaux français accueillent en tout plus de 20 000 personnes admises à cause du Covid-19. Et parmi les villes les plus touchées par l'épidémie, on trouve Roubaix et Tourcoing dans la métropole lilloise, avec un taux d'incidence 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Au centre hospitalier Gustave Dron de Tourcoing, il existe un service universitaire dédié aux maladies infectieuses. Et évidemment, en ce moment, il est très occupé par des patients Covid. Tara Schlegel a pu le visiter pour France Culture.
Donc là, vous êtes dans une des unités Covid. Donc vous voyez, c'est calme. Mais en fait, toutes les chambres sont pleines.
Même avec le docteur Olivier Robineau, impossible d'entrer dans les 25 chambres Covid, toutes occupées donc sauf une.
Ici, alors pour l'instant, on arrive à avoir que des patients stables qui nécessitent une surveillance parce que dans le Covid, les patients se dégradent très très vite. En quelques heures, ils peuvent avoir des besoins d'oxygène qui montent de manière explosive. Mais on reste en dessous de 6 litres d'oxygène. Au-delà, on les transfère en réa. Et pour l'instant, on a encore la chance de réussir à faire ces transferts.
Même si l'infectiologue garde le sourire, en réalité, le service de réanimation de l'hôpital Dron est quasiment saturé, détaille son collègue Serge Alfandari.
Là, par exemple, aujourd'hui, sur les 22 lits de réanimation, il y en a 15 occupés par des patients Covid, 6 par des patients non Covid, il reste une place.
Et si deux malades en état de détresse respiratoire se présentaient en même temps, il faudrait choisir qui on accueille et qui on transfère. Christelle est aide-soignante depuis 12 ans, représentante CGT aussi. Nous avions rendez-vous au local, syndical, avec des collègues, mais personne ne veut parler.
Franchement, non, le personnel n'est pas prêt psychologiquement. Il est épuisé de la première vague, il est épuisé de la canicule, et là, une seconde vague, non, il n'est pas prêt. Parce que là, à la première vague, c'était rupture de masque. À la seconde vague, le risque, c'est rupture de gants. Comment on va devoir s'adapter à ça ? Une aide-soignante sans gants à devoir faire une toilette, alors que les selles sont très contagieuses, qu'est-ce qu'on fait ?
Le docteur Alfandari, qui est infectiologue et hygiéniste, a beaucoup travaillé avec le personnel pour que les gants ne soient utilisés que quand c'est strictement nécessaire. Mais il est plus inquiet pour les surblouses. Il y a à peine un mois de stock. Or, l'épidémie va durer et le contexte est différent.
Ah ouais, la première vague, c'était en mars. le printemps. On savait qu'à le printemps, c'était l'été. Les choses allaient s'améliorer, qu'il n'y aurait pas les pathologies hivernales. Là, on est en octobre. On va devoir se taper tous les mois d'hiver avec toutes les pathologies qui vont se décompenser. Parce que les infarctus, ils vont continuer. Les accidents vasculaires cérébraux, ils vont continuer. Ceux-là, ils vont continuer à arriver. Plus les Covid. Sans compter l'état psychologique du personnel qui est catastrophique. Ça va être dur.
Un véritable euphémisme dans cet hôpital où, comme ailleurs, on n'arrive pas à recruter du personnel soignant.
Le reportage de notre spécialiste santé, Tara Schlegel.
7h10 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre à l'étranger aussi. Le Covid-19 continue de faire la une de l'actualité.
L'Allemagne connaît de nouvelles restrictions qui s'appliqueront tout le mois de novembre. Explication de notre correspondant à Berlin, Ludovic Piétenu.
La chancelière appelle à un effort national. Wir müssen handeln, und zwar jetzt. Nous devons agir et nous devons agir maintenant, dit Angela Merkel qui se met à lister les nouveaux lieux interdits. Theater, Opern, Konzerthäuser, les théâtres, les opéras, les salles de concert, mais aussi les cinémas, les foires commerciales, les parcs d'attractions. À partir de lundi, les restaurants, les bars et les snacks aussi baisseront leurs rideaux pendant 4 semaines jusqu'au lundi 30 novembre dans le but d'éviter une situation sanitaire critique, dit-elle. Das heißt, die Kurve muss. Il faut aplatir de nouveau cette courbe et réduire le nombre de nouvelles infections sur une semaine à 50 pour 100 000 habitants, de façon à retrouver notre capacité à tracer les contacts qu'ont eu les malades. Car aujourd'hui, l'Allemagne est dépassée, incapable d'identifier dans 75% des cas les circonstances de l'infection, d'où cette solution du confinement. Au risque de porter un nouveau coup à l'économie, Berlin devrait annoncer demain une chute de 5,5% de son produit intérieur brut pour 2020, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale.
L'opposition au pouvoir ivoirien envoie des jeunes gens à la mort, affirme le chef de l'État Alassane Ouattara. Il brigue un troisième mandat, une élection présidentielle controversée. Des violences ont lieu depuis le mois d'août. Thomas Larabie nous parlera plus longuement de la Côte d'Ivoire dans sa revue de presse internationale à 7h35. Dernière journée donc avant le confinement et elle sera grise sur une large moitié de la France. En revanche, le soleil va briller dans le sud-est. Il ne fera pas plus de 14 degrés à Tours et Lille, 18 à Bordeaux et 20 degrés à Marseille, Guillaume.
Eh bien, merci beaucoup Margot Delpierre. Il est 7h12, alors peut-être qu'il serait judicieux de se lever dans quelques instants. La question du jour, Donald Trump peut-il encore gagner ?